Alors, je n'aurai pas la prétention, évidemment, de présenter M. Godard. I wouldn't have the pretension of introducing Mr. Godard. Je voulais juste vous dire, mes ont été tournés il y a à peu près 7 ans, et que donc c'est une histoire qui se prolonge. Et là, je voulais peut-être simplement, comme première question, demander à M. Godard de nous dire pourquoi cette histoire du cinéma, ces histoires du cinéma.
Je me souviens quand ça a commencé, je devais prendre le relais d'Henri Langlois à Montréal, au conservatoire de Montréal. C'était dirigé par Serge Zic. Et c'est là que ça a commencé, quand j'ai commencé à donner des cours une fois tous les deux ou trois mois, suite à la disparition d'Henri Langlois. Je remercie encore Serge Zic de m'avoir accueilli quelque temps. Et je crois que c'est en commençant à donner ces cours un peu que m'est venue l'idée de... On m'a toujours dit que je ne savais pas raconter l'histoire. Et en même temps, l'histoire, les grandes comme les petites m'ont intéressé. Comme je l'ai dit dans mon film, quand j'étais petit, on me disait « raconte pas l'histoire ». Et ensuite au cinéma, on m'a dit « raconte des histoires ». Donc je voulais faire un peu le point aussi sur mon histoire, dans l'histoire du cinéma dont j'ai occupé, dont que j'ai accompagné pendant 40 ans.
Voilà. Alors, première question.
Ça dépend ce que vous appelez réussir, cher ami.
Mondialement.
Encore plus réussir. Réussir mondialement. Hein, c'est...
Comme Fifth Element, le cinquième élément.
Comme?
Le cinquième élément.
Écoutez, je ne sais pas, disons, il réussit à gagner de l'argent, ce que je n'ai pas réussi à faire souvent, quoique des gens ont gagné de l'argent. Avec moi, des fois sur mon dos, des fois avec moi. Et si on examine les choses d'un point de vue historique, mon opinion, qui est facilement vérifiable avec les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est que, en gros, si on fait l'addition de tout ce qui était dépensé pour faire un film depuis la sortie des usines Lumière ou les premiers kinescopes d'Edison, enfin, sans même compter ce qui venait à Muir Bridge, Plateau, enfin, tout ce qui était dépensé jusqu'au, disons, cinquième élément, et qu'on additionne, on fait une colonne d'un côté, puis ensuite on fait l'autre colonne, comme les comptables, et puis ensuite on additionne tout ce qui a été engrangé comme recette. On verrait que la colonne des dépenses dans le cinéma mondial, depuis le début, est beaucoup plus forte que la colonne recette. Il y a des films qui marchent très très fort, l'ensemble du cinéma n'est pas fait pour marcher, et la télévision, du reste, après, a repris le relais. Il s'agit d'autre chose, il s'agit de politique, de pouvoir, de domination culturelle, il s'agit d'autre chose. D'un point de vue strictement comptable, je crois que le seul film qui est vraiment un autre point de vue que j'ai, qui j'aurais pu développer aussi des fois, c'est que les bons films ne sont pas faits pour marcher. Il y a des exceptions très très rares. La seule, à mon avis, qui existe toujours, c'est Naissance d'une nation. Naissance d'une nation, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les films duraient une bobine, ils coûtaient $1,000, ils duraient 10 minutes, et ceux qui ont fait Naissance d'une nation ont dit on va frapper un grand coup. On était vers entre 1910 et 1920, le dollar ne valait pas ce qu'il valait aujourd'hui. Et ils ont dit, ben, on va faire un film de... Au lieu de dépenser $1,000, on va faire un film de $10,000. Et puis un autre a dit, non, c'est pas assez, on va faire un film de $100,000. Puis l'autre a dit, non, c'est pas assez, on va faire un film de $1,000,000. Et puis au lieu d'une bobine, on va faire 2 bobines. Non, c'est pas assez, on va faire 5 bobines. Non, c'est pas assez, on va faire 10 bobines. la différence entre 1000 dollars pour une bobine et 1 million de dollars pour 10 bobines a fait que ça a été le plus grand succès financier et un grand succès artistique aussi, parce que les deux allaient ensemble. Ça, c'est mon point de vue d'historien.
Merci. Oui.
Je pense que Nicolas n'est peut-être pas d'accord.
D'abord.
Proportionnellement, si vous voulez, le cinquième élément, pour faire une affiche de comparaison, à mon avis, coûterait aujourd'hui 5 milliards de francs.
Non, je ne suis pas absolument sûr que la colonne dépenses et la colonne recettes ne s'équilibrent pas aujourd'hui. Si on faisait l'addition globale.
Et il faut faire venir M. Armani à côté de nous.
Monsieur Godard, on est en belle vague, grimpant au rideau et interrompant le festival. Qu'est-ce qui mériterait aujourd'hui, en cette période de consensus mou, qu'est-ce qui mériterait qu'on grimpe au rideau du festival du 50e?
Qu'est-ce qui mériterait que quoi?
Qu'est-ce qui mériterait que, pour quelle cause pourrait-on grimper au rideau et interrompre le 50e festival de Cannes?
Je sais pas, drôle de question, je sais pas. Vous me faites penser à une phrase du philosophe Cioran qui disait « Nous sommes tous des farceurs, deux points, nous survivons à nos problèmes. »
Poser une question. Dans le film, il y avait des sous-titres qui disaient « Qu'est-ce que c'est le cinéma ? Rien. Qu'est-ce qu'il veut ? Tout. Et qu'est-ce qu'il peut faire ? Quelque chose comme ça. » Et j'aimerais avoir un peu plus d'explications pour ça, s'il vous plaît.
Écoutez cette phrase « Qu'est-ce que veut tout ?» Vous savez, moi j'aime bien les citations. Je ne peux pas vous les citer tous. D'abord, je vais vous citer un proverbe kabyle, je crois, qui dit que si une référence à une phrase connue du temps de la Révolution française, je crois, de l'abbé Sieyès, je n'en suis pas sûr, à l'époque de qui était un des représentants du tiers état à l'Assemblée nationale ou à la Convention, et qui définissait le tiers état, qui n'était pas grand-chose, puisqu'il y avait la noblesse et l'armée, qui disait « Qu'est-ce que le tiers état ? Rien. Que veut-il être ? Tout. Que peut-il être ? Quelque chose. » Et je trouvais que ça pouvait s'appliquer à ce qu'a été le cinéma, comparé, qui était neuf, enfin relativement, dans le XXe siècle, qu'il a voulu très vite tout être. Je vous rappelle dans le film que vous avez vu les extraits, la phrase de Erich Pommer, le producteur allemand, qui disait « Je ferai pleurer le monde entier dans son fauteuil ». Jamais Gallimard n'a dit ça. Hein. Jamais Durand Ruel, quand il achetait Van Gogh, n'a dit ça. Et je pourrais vous citer aussi la phrase de Léon Gaumont, apporter les spectacles du monde entier dans la plus misérable des chambres à coucher. Donc il a, d'une certaine manière, pas de la part des artistes, mais de la part des producteurs, qui étaient beaucoup plus liés aux artistes qu'aujourd'hui, il y a eu une volonté mondiale, et il a annoncé, du reste, le cinéma a toujours annoncé, enfin, le cinéma tel qu'on le connaissait, tel qu'on le connaît encore un peu aujourd'hui, celui dont je parle dans ce film, d'une manière un peu archéologique, a toujours annoncé ce qui allait se passer après. Le soir, c'est-à-dire si on n'est pas à Cannes ou ailleurs, si on voit un enfant hutu ou tutsi, le crâne défoncé par un machette, on
ne répondait sans papier. Et ce qu'on leur a reproché,
bien sûr, un arabe n'est pas un juif, bien sûr, ce 1940 n'est pas 1997, tout ça, mais il y avait un certain nombre de mots, et si on regardait, c'est-à-dire on a deux yeux, si on regarde on n'a qu'un seul regard, mais on a deux yeux, donc il faut que le regard se porte ici et là, et ensuite fasse quelque chose de ça. Ça, c'est le montage. Et on voyait qu'effectivement, il y avait des mots communs, c'est tout ce qu'il disait. Et c'était absolument normal que ça soit des cinéastes qui fassent ça. Parce que le montage n'a pas vraiment été appliqué dans le cinéma, ce qui permet un rapprochement. Le cinéma est un art pacifique, il est fait pour rapprocher.
Bonjour, Daniel Cinglant de la chaîne coréenne MBN.
Gilles Jacob ou Nicolas Sédoux est mieux placé que moi pour savoir le rôle du festival de Cannes. Et le profil du cinéma français, Nicolas peut vous en parler aussi. Moi, je peux vous parler que du cinéma français de face. Mais pas de profil. Mais la vie de Nicolas est intéressante, si vous voulez.
Oui, enfin, dans la mesure où la question s'adressait à Jean-Luc Godard, moi je regarde en tout cas l'écran de face, très clairement, et j'essaie de regarder les réalisateurs également de face, même quand je suis ici à côté de vous.
Jacqueline Laurence est peut-être au détriment des acteurs.
Pas beaucoup d'un. J'ai pas tellement d'avis. J'ai toujours l'avis qui était celui d'Orson Welles, c'est que ce qui est tricky, ce qui est tricks, ne vaut que s'il y a les trucages de La Belle et la Bête, par exemple, qui étaient des trucages. Réels, si j'ose dire, ne sont pas pensables encore aujourd'hui, et des fois je le regrette, car il y a des possibilités techniques, et personne autant que moi ne s'est intéressé comme la nouvelle vague, et même moi dans la nouvelle vague plus que d'autres s'est intéressé à la technique. Mais en essayant que la technique puisse revenir, enfin disons le fond et la forme, au contenu aussi. Je veux dire, un travelling, c'est forcément un trucage. Cocteau n'aimait pas les travelling, car il disait à quoi ça sert de filmer un cheval au galop, en le suivant, il a l'air immobile. Donc, technique. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de démission. Et je pense que, enfin je sais pas, il ne faut pas se plaindre, hein, quand on a confié son sort à un certain nombre de machines et que c'est elles qui vous dirigent, et puis un certain nombre de trucages où on voit que celui que j'ai le mieux aimé, parce qu'il était le plus de films dits commerciaux, c'était le deuxième Terminator par exemple. Parce qu'il y avait un côté, c'était une comédie, elle aurait pu être, et les trucages étaient bien, étaient relativement bon, c'était une comédie et que il ne faut pas en demander plus, c'était pas Cucor, hein, c'était pas Léo McCarré, c'était pas Tati, mais quand même, il y avait un truc réel, on s'en servait, mais il y a un certain nombre de, quand on pense à la peinture symboliste ou aux surréalistes ou les choses ou au trucage que William Burroughs fait subir à la langue ou au trucage que James Joyce a fait subir dans son dernier livre Finnegan's Wake, on peut dire que La Guerre des Étoiles ou d'autres sont relativement je souhaiterais plus enfantin et moins infantile, si vous voulez. Mais c'est notre temps aussi, et ce temps est passionnant d'une certaine manière.
Michel Fargeau, je crois que dans cette salle même, il y a une dizaine d'années à peu près, vous étiez à travers l'histoire que vous faites, et pas une façon de penser que le cinéma est fasciste, parce que on impose une
gestion, je dirais, le cinéma que nous avons connu, et c'est pas effectivement, et De même que le cinéma muet, on a peu, à l'intérieur de son histoire aujourd'hui, on a peu... j'ai voulu tout connaître dans le cinéma, aussi bien un film avec vedette qu'un film avec est inconnu, qu'un film fauché, aussi bien un film raté qu'un film réussi, tout. Le cinéma n'est pas... ce n'est qu'un film, comme disait Hitchcock à Ingrid Bergman. Mais en même temps, dans le cinéma muet, ben, je me suis aperçu que j'ai connu avec le numérique ces grands films qu'il y a maintenant, ou comme ça, qui sont réservés aux grands films, alors que je trouve que le numérique, pour être bien appelé, devrait être aussi pouvoir appliquer à des beaucoup plus petits films qui, des fois, plus poétiques et des fois, qui en auraient besoin. Mais par exemple, je me suis aperçu que devant ça, je pouvais éprouver un peu le sentiment que certains cinéastes, même aussi moyens que René Clair, par exemple, ont dû éprouver lorsqu'il y a eu l'application du parlant. Ils ont dû avoir le sentiment, il y en a un certain nombre qui ont été mis de côté, d'un monde comme si c'était des enfants, et puis tout à coup ils arrivaient dans un monde d'adultes, les adultes déménageaient, et tout le monde de leur enfance avait d'un coup disparu. Des historiens sérieux comme Pierre Nora ou Braudel pourraient étudier ça, au moins si je continue un jour cette histoire du cinéma. Alors dans la brochure que j'ai remis aux journalistes, que peut-être vous avez parcouru, il y a un excellent article très intéressant d'un Américain nommé Hollis Frantol, je crois, qui est mort aujourd'hui, et il dit quelque chose de très intéressant que je vais vous lire et qui est hors des choses convenues. Il dit: quand une époque se dissout lentement dans l'époque suivante, quelques individus transforment les moyens de survie en moyens nouveaux de survie, et ce sont ces derniers que nous appelons art. Finalement, le cinéma tel que nous l'avons connu est en fait l'art du 19e siècle. Une époque met longtemps à disparaître et à devenir une autre. Le cinéma tel que nous l'avons connu, de Griffith à moi, mettons, c'est pas pour me citer, c'est l'art du 19e siècle. Le 19e siècle a bien disparu. Il en reste à un moment donné l'art. Et c'est du reste dans la peinture, ça s'est produit pareil. Lorsque le 19e siècle a commencé à disparaître, et il termine aujourd'hui sa disparition, c'est la peinture impressionniste qui a pris le relais du 19e siècle. C'est un certain nombre de romans, Joyce, Stravinsky, tous ceux-là qu'on a appelés modernes, sont des gens du 19e. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc je dirais, ce cinéma-là, oui, est-ce triste? Pardon, une époque disparaît, c'est comme ça. Le nouveau cinéma n'a encore pas d'art, il ne peut pas, cette époque n'existe pas encore. Alors, ce qu'il y a quelque chose d'étonnant, c'est chaque fois qu'un film gagne beaucoup d'argent, sauf les Américains, c'est là leur force. Mais les Européens, quand un film gagne beaucoup d'argent, ils veulent en plus qu'on dise qu'il est bon. J'ai remarqué, les Européens ont un peu influencé, en gangréné un peu les Américains de ce point de vue-là, parce que les Américains aussi, maintenant, ils veulent non seulement que ça gagne de l'argent, mais ils veulent en plus qu'on dise que c'est bon. Oui, mais alors celle-là, je la comprends pas.
Journal romain adévoreux, Bucarest, Roumanie. Monsieur Jean-Luc Godard, le fait d'avoir cité le philosophe Dürer, par votre peu d'intérêt pour le film anglais, je me souviens...
Ce serait un peu long, et puis en parole, c'est difficile, il faut le faire avec les images. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes histoires du cinéma, sinon de parler avec ou derrière les images, avec preuve à l'appui, pour faire des rapprochements et qu'il puisse se dégager une pensée, s'affirmer une pensée, ou au contraire s'infirmer une pensée. Si on regarde, ça dépend ce qu'on appelle le cinéma ou ce qu'on appelle les films, ça dépend ce qu'on appelle les romans ou la littérature, ça dépend ce qu'on appelle les tableaux ou la peinture. Pour moi, un tableau n'est pas forcément la peinture. La peinture est quelque chose représenté par tous les tableaux et quelque chose d'autre, comme l'humanité n'est pas telle ou telle personne, telle et telle personne est un moment ou un morceau d'humanité, un film est un moment ou un morceau de cinéma. Or, le cinéma tel qu'il est inventé, il s'est trouvé qu'il y a deux ou trois nations parmi d'autres qui en ont fait un usage personnel, si j'ose dire, et qui se sont reconnus dans cette forme de rapport au réel, plus que d'autres. Pour le dire d'une manière imagée, je dirais il y a eu le cinéma italien, le cinéma allemand, le cinéma français un peu, le cinéma américain et le cinéma russe. Si je dis par exemple qu'il n'y a pas eu de cinéma suédois, je dirais, mais il y a eu des cinéastes et des films suédois, et des très grands metteurs en scène suédois. Mais le peuple suédois ne se reconnaissait pas dans l'image du monde donnée comme image du monde, comme image suédoise du monde donnée par Sjöström ou Stiller. Alors que les Français, les Italiens, et encore pas tout le temps, les Allemands, et encore pas tout le temps, les Russes, pas tout le temps, pas pendant longtemps, de 1915 à 1925, les Russes se sont reconnus, mais c'est un moment où la Russie pensait changer de rapport au monde, avait tout à coup une autre vision du monde, et que le cinéma représentait ce changement de vision. Les Italiens l'ont eu, à l'époque du néo-réalisme. Les Français l'ont eu d'une autre manière. Il n'y a peut-être pas eu de cinéma français, mais il y a eu tellement de cinéastes français qui aimaient le cinéma que ça finit par faire une idée du cinéma. Et on l'a très bien vu pendant l'occupation, ou même des films moyens. La France occupée s'est reconnue dans ces films moyens. Et dès qu'est venu le cinéma américain, elle s'est moins reconnue, parce que ce cinéma était un cinéma un peu d'oubli, n'était pas vraiment une franche vision du monde. Donc je dirais ça. Et les Anglais, si on prend les Anglais, on peut pas tout avoir, un pays ne peut pas tout avoir. Il avait les trois quarts du globe, l'Angleterre, il avait le commerce, il avait la marine, il avait la reine d'Angleterre, il avait 36 trucs... Même c'est... À un moment, le cinéma anglais ne représentait absolument pas ce que pensait l'ensemble des citoyens anglais, ne fût-ce que de ce qu'était l'Angleterre, avec ses colonies, avec sa misère. Ils se reconnaissaient dans Dickens, dans la littérature anglaise, dans Thomas Hardy, sans en parler Shakespeare, ils ne se reconnaissaient pas dans les films d'Arthur Rankin. Et tous les gens anglais, acteurs les premiers, qui avaient un énorme talent, surtout les acteurs, ils sont partis, Hitchcock est parti, Chaplin est parti, ils n'avaient pas. Ils sont allés à Hollywood tout de suite, très vite. Quand Hitchcock est revenu en Angleterre, c'est avec Selznick, c'est pas avec Rankin. C'est ça que je veux dire. Il y a peu de même, vous le voyez très bien vis-à-vis de la peinture, on dit il y a la musique viennoise, mais on ne dit pas il y a la musique hongroise. Bien sûr qu'il y a des airs de musique hongroise, bien sûr qu'il y a des musiciens hongrois, mais ce n'est pas la même chose quand vous dites la musique viennoise. Si vous dites la peinture italienne, ce n'est pas vraiment la même chose que la peinture allemande. Il y a eu d'immenses peintres allemands, il n'y a pas eu une peinture véritablement allemande. Voilà ce que je veux dire.
If you don't mind, I ask in English, because I know my French is quite weak. So, as far as I know, there are some other directors, film directors, who does not really believe in this kind of organic revival of film, which you seemingly keep as a notion. For example, Neil Jordan is keeping prophecies about the forthcoming death.
Who doesn't believe to what? To this?
This kind of organic revival, organic rebirth of film. There are some other directors who think final extinction, final death of film, which is going to happen soon. If it's true, the question is, what are we celebrating here? Fragments of a dead body, as you said, fragments of a dead body of a cinema. And attached to the first part of the question, very, very much subjectively, do you feel yourself as much comfortable here in the Cannes Festival in 1997 than you did in the 50s? Because certain things definitely have changed. So very much subjectively, what are your feelings if you come in here, see the films, and see the business going on?
I certainly don't come here to see films, just to do my job for Gaumont, who is producer of the movie, and it's a great pleasure to do it. I've always done movie, in the beginning, je parle français. Pour le dé, excusez-moi. Je n'ai jamais fait de film au début, en tout cas. Je veux dire au début, quand je commence un film, pour mon plaisir. Je ne suis pas né sur la terre pour mon plaisir. D'autres m'y ont amené. Ensuite, j'ai dû me débrouiller avec ça. Je pense que je ressemble à tout le monde comme ça. Pour les films, c'est pareil. Je fais des films pour gagner ma vie. Ensuite, j'essaye de gagner ma vie en faisant quelque chose qui me plaît, que je trouve beau et que je puisse partager avec certains amis. Mais je l'ai fait d'abord pour gagner ma vie. Donc, je ne pense pas. C'est le cinéma tel que je vous l'ai décrit, qui est à la fin. On comprend très bien, si on croit cet article de Lee Frampton, ce texte dans Lee Frampton que je vous recommande, qui est magnifique, qui parle bien des machines. Et je ne sais pas, certains critiques ici peuvent se souvenir que Jean Epstein a écrit un livre sur le cinéma et qui s'appelait « L'intelligence d'une machine ». Jean Epstein, 1935. Donc ce cinéma-là n'est pas plus décédé pour moi que Euripide ou que Shakespeare ou que Molière, pour prendre des exemples fameux. Simplement, il ne peut plus s'accomplir de la même façon. Il change, il va changer. En ce moment, c'est la machine qui parle. Je vous ai dit mon avis sur l'emploi de ce qu'on appelle le numérique, que vous et moi, et même ceux qui l'emploient, seraient bien incapables de définir, qui est une époque très trouble, parce qu'on va à la fois en avant et en arrière. Et ce que je peux regretter, c'est que les moyens très spécifiquement cinématographiques qui étaient de faire des rapprochements entre deux choses réelles, entre deux images de choses réelles et une certaine relation au réel, pas forcément spectaculaire, et qui travaillait fondamentalement comme les scientifiques. Vous savez, les scientifiques, ils emploient les mêmes machines que nous. Ils emploient un télescope ou ils emploient un microscope. Et puis, ils voient quelque chose là, ils voient quelque chose là. Puis, tout à coup, il y en a un qui dit, hey, « Hé, Bob, dis-moi si ça. » Et puis, tout à coup, voilà. Et puis, il y a une découverte. Eh bien, un bon film, c'est un film où il y a des découvertes. Disons que c'est presque le contraire de la télévision, puisque dans sa matière globale, la télévision est au contraire fait pour recouvrir. Et les magazines aussi, puisque la première page du magazine s'appelle une couverture. Et le français, c'est pour ça que la France a beaucoup de mal aujourd'hui. Parce que dans sa langue même, le français est une langue non pas très imagée comme d'autres langues, comme le finlandais par exemple. C'est une langue à sens, elle vient du latin, et c'est une langue qui permet à la fois du sens et du contresens et de dire beaucoup de choses juste avec, avec deux mots des fois.
Oui, on peut le rajouter. Hein.
Par rapport, alors correspondance, et en particulier pour les films sur l'histoire du cinéma.
Oui, mais il faut être plus précis, il faut parler, donner un exemple. Correspondance, me semble, c'est un mot, je pense, utilisé par Baudelaire ou par Rimbaud aussi. Et c'est quelque chose qui disparaît avec les portables ou les choses comme ça, la correspondance.
L'art contemporain, l'art contemporain au fond du XXe siècle est arrêté où le cinéma était commencé. La découverte de laquelle vous parlez, l'invention de nouveau, et ce n'est pas le moment, vous croyez, recommencer et détruire des l'art du cinéma et faire comme ça fait l'art de la peinture. Et chercher les 50e éléments dans l'ère contemporaine, dans l'ère future du cinéma des 3e millénaire. Je n'ai pas très clair peut-être, non,
non,
c'est
non, non, pas. Pas excessivement.
La question, est-ce que vous croyez que l'art du cinéma contemporain doit détruire elle-même pour recommencer à zéro, pour trouver un 50e élément? Non,
mais je vous dirais, je viens de vous dire, c'est une erreur de croire que l'art n'est jamais contemporain. Il est toujours la suite, la fin de quelque chose qui permet une transition, soit la fin d'une époque, soit l'annonce d'une nouvelle, il est forcément contemporain. Si vous faites une peinture aujourd'hui, en 97, ben, cette peinture est contemporaine en 97, dans le sens où je dis vous êtes mon contemporain.
Mais non, c'est-à-dire qu'il n'est pas adéquat à notre conscience, surtout.
Mais il ne peut pas l'être. Mais il peut être, il peut penser au passé, il peut penser au futur et savoir où il est, de quoi il parle. Lorsque Eisenstein même pensait être contemporain des soviets, mais il ne l'était pas. Et du reste, c'est ça qui a nui tout de suite. Il ne l'était pas. En tant qu'artiste, il était après ou avant ou quelque chose. Il était plus proche des Aztèques ou des Incas, je ne sais pas quoi. Alors, la preuve, c'est qu'il est allé faire son film au Mexique plutôt que de rester en Russie. Oui, mais il le sentait tout à fait en tant qu'artiste. Il croyait... C'est cette discussion toujours ennuyeuse et imbécile sur l'art. Est-ce que l'art doit être au service du peuple, des trucs comme
non,
ça
on
que...
parle...
Non, pas du tout.
Je parle de plastique de l'art. Bon, et la deuxième question, d'accord.
Donc l'art du XXe siècle, on ne peut pas dire aujourd'hui si dans 50 ans, ça sera toujours le cinéma ou si ça sera autre chose. On saura quand le XXIe siècle sera à peu près fini, ou pour ceux qui ont une vision un peu d'avance et plus forte, ceux qui sont des voyants, si vous voulez, comme Rimbaud ou comme Évariste Galois en mathématiques, eh ben, ils diront, ben voilà, l'art, ça sera comme ça. Et ils commenceront à faire cet art déjà aujourd'hui, ce qui les rendra du reste incompréhensibles. Le fait qu'il n'y ait plus de grandes disputes, comme à Cannes, ça, voilà un élément de l'histoire du cinéma. Il est impossible aujourd'hui, à Cannes même, d'avoir une dispute comme il y a eu pour l'Aventura.
Et la deuxième question, très courte, le ministre de la Culture, Auguste Blasi, disait très récemment,
comme l'agriculture et comme ça, on fait commerce. Et le XXe siècle l'a reconnu. Et en plus, grâce au cinéma, une des premières machines culturelles du XXe siècle, c'était l'appareillage cinématographique. Il y a ceci de très original par rapport à la peinture, les romans d'Asimov ou les romans de Van Vogt ou de Clifford Simak. On voit très bien qu'il se passe toujours dans 20 ou 30 000 ans. On voit toujours ce rapport, ce rapport de l'homme à la machine, au robot d'abord, puis aux androïdes après, c'est-à-dire à l'homme tel que le clonage va le fabriquer, que tous les romans de science-fiction ont décrit en long, en large et en travers. Il n'y a qu'à les lire. Ils ont été publiés il y a 50 ans déjà. Et donc on n'a pas fait attention à ce rapport avec la machine qu'était le cinéma et ce rapport humain plutôt qu'un rapport inhumain. J'ai jamais vu encore deux personnes, on voit tout le monde, même les clochards. Je voyais un clochard qui téléphonait sur son portable, si vous voulez. Et ben, j'ai jamais vu encore des gens sur leur portable avoir une vraie conversation. Ils n'ont que des conversations de commerce, ou alors ils disent c'est moi, je rentre tout à l'heure. Voilà, tout va très bien, et toi, moi, je rentre tout à l'heure. Voilà. Alors Motorola dépense 50 milliards de dollars pour lancer 10 000 satellites et on pourra se dire ça de n'importe où à n'importe où. C'est l'époque où nous vivons. Elle est drôle aussi, vous voyez, on rit.
J'ai une question sur laquelle, là, d'un seul coup, on voit que, on voit des portraits de femmes, d'artistes qu'on identifie, et je voulais savoir où ça s'intègre dans votre réflexion, peut-être sur ce que vous disiez récemment sur l'homme et l'œuvre, la femme et l'œuvre, de quoi on parle quand on en parle.
Mais si vous voulez, il faudrait les voir en entier, même dans ce que j'ai montré à Cannes, mais ça a été fait un peu rapidement. Il aurait fallu voir la toute première partie qui a été diffusée il y a 7-8 ans déjà sur Canal+, FR3, etc. Parce qu'elle était beaucoup plus proprement cinématographique, enfin disons strictement cinématographique, et il y aurait eu la deuxième partie, enfin celle que vous avez vue en premier, est un peu plus sociale, historique, je disons. La dernière devient purement morale et philosophique. Et on aurait vu la gradation. Effectivement, ce que j'ai non pas voulu faire, mais fait naïvement, inconsciemment, c'est que ça soit peut-être le cinéma qui parle. Le cinéma qui parle, et du reste le texte, qui est un texte de Valérie, dit à demi-voix, disant de grandes choses, de fortes et douces choses. Voilà le cinéma. Mais à demi-voix. Et le faire dire au début par un ensemble de femmes rebelles qui se sont révoltées. Et pour moi, c'est une façon, le cinéma étant principalement fait par des hommes qui filment des femmes. Ça commence déjà un peu, mais ça sera jamais autant. Donc c'était juste de donner à des rebelles comme Camille Claudel, Virginia Woolf, Anne-Marie Mieville, même Colette, que ça soit elle qui relaie comme le héros à la fin, qui revient de la bataille des Thermopyles, mais que ça soit pas un soldat là, que ça soit une soldate mais civile.
Monsieur Godard, je suis Carlos Matos du Journal Brésilien. J'aimerais savoir votre opinion sur l'art vidéo contemporain et si vous croyez que c'est la vidéo la dernière place qui reste pour un cinéma de poésie.
Non, pas du tout. La vidéo est un outil. En plus, ça dit vidéo qui veut dire je vois en latin. C'est un outil qui est plus personnel, qui ne demande pas l'infrastructure cinématographique, en particulier le laboratoire, et qui permet à plus ou moins frais, suivant la qualité du matériel, à plus ou moins de dépenser l'image et d'en mélanger deux. Hein. J'ai eu un petit matériel Sony tout à fait classique et comme ça que je travaille. Je n'ai pas de table de montage électronique, je fais les choses à la main pour avoir le temps de les, pour avoir le temps de les faire. Et il y a quelque chose qui me plaisait en tout cas et qui avait disparu et que j'ai même contribué personnellement à un moment donné à faire disparaître, c'est la surimpression, qui était quelque chose de long, de coûteux et de pas très bon en cinéma. Et celui qui m'avait le plus impressionné, c'est les très longs fondus enchaînés de George Stevens, dont je me souviens qu'il passait, et je me souviens que dans les films de Stevens, on les défendait au cahier, surtout celui avec Elizabeth Taylor et Monty Clift, qui s'appelle d'après une américaine tragédie, j'ai oublié le nom du film. Jonathan, c'est quoi ce film? A Place in the Sun. Eh bien, je me souviens que quand il y avait ces immenses fondus enchaînés après le meurtre de Shelley Winters par Monty Clift et qu'on revenait à Elizabeth Taylor et que ça durait 3 minutes, ce qui était énorme, je me souviens que c'est à ce moment-là qu'on pensait le plus le film, pas dans la scène elle-même, mais à ce moment-là. Et je pense que ça m'est resté un peu inconsciemment. Et là, j'ai essayé de faire des... simplement au niveau de la surimpression, c'est-à-dire du passage, et de filmer, de raconter l'histoire, comme disait Virginia Woolf, entre les actes, d'après le nom de son roman. Les actes du cinéma, les actes de décès, les actes de naissance, c'est ainsi qu'on les appelle en français, langue merveilleuse, je vous le rappelle, et entre ces actes de décès et ces actes de naissance, il y a ces actes héroïques du cinéma vis-à-vis du réel, dont il s'approche à pas documentaire, comme Flaherty, comme Rouge, ou dont il s'approche complètement sur la forme, comme Offus ou comme d'autres grands américains ou chez d'autres. Voilà, c'était... La vidéo peut servir à ça. Et ça, ce n'était pas possible de le raconter en cinéma. Ce n'était pas possible de le faire avec la technique du cinéma.
Jean Vallier, France-Amérique, New York. Je voudrais vous demander concrètement, et peut-être la question est à M. Godard, à M. Seydoux, quelle distribution vous souhaitez pour l'avenir, étant donné l'importance, la beauté des images, l'importance du texte, et surtout, et aussi de la musique, est-ce qu'il est... possible que dans un pays comme les États-Unis où les documents circulent à peu près jamais ou très mal, il y ait une version en DVD qui permettrait en particulier de faire une traduction. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est possible? Monsieur Godard, quel public avez-vous pour l'avenir avec ces documents? À qui parlez-vous?
À mes amis, mais qui se présentent. Pardon?
Vous en avez beaucoup, potentiellement, certainement aux États-Unis dans les universités, qui ne sont pas nécessairement touchés par manque de traduction et manque de disponibilité des documents.
Mais ce qui a toujours été difficile dans le cinéma très, très vite, moi mes films ont toujours été relativement bien produits, ou aidés à bien produire, celui-là aussi, dans Saint-Gaumont. Mais ils ont toujours été mal diffusés. Et souvent la diffusion est allée contre la production. Ce qui explique, et beaucoup de films comme ceux que je fais, il est arrivé la même chose à Cassavetes, il est arrivé la même chose à d'autres metteurs en scène. La difficulté, nous avons un public dans le monde, mes amis, je les compte, je les estime à 500 000 personnes dans le monde. Ce qui est beaucoup d'avoir 500 000. Entre 100 000 et 500 000, ça dépend s'il pleut ou s'il pleut pas, s'il y a la guerre ou s'il pleut pas, enfin des choses comme ça. Si sa femme l'a quitté ou si son homme est resté, enfin des choses comme ça. Mais entre 100 000 et 500 000, je pense. Mais c'est absolument impossible de les joindre. Et c'est pas par Internet que je vais les connaître. Bon, c'est un support, pourquoi pas, ça il faut peut-être que Gaumont, M. Seydoux voudra le mettre, bien sûr, que ça reste dans une bibliothèque et de temps en temps que les gens puissent le consulter.
Donc
que vous posez une bonne question, et en tout cas en ce qui concerne les États-Unis, il est tout à fait clair que les amis de Jean-Luc, qui sont d'abord dans les universités, que ce film-là peut poser des problèmes un peu particuliers, mais que nous sommes très attentifs d'essayer d'améliorer la diffusion des films de Jean-Luc Godard, puisque nous sommes en négociation pour essayer de remettre un peu d'ordre dans le catalogue des droits de Jean-Luc Godard et de faire avec lui la meilleure diffusion mondiale possible de ses films et donc également d'histoire de cinéma.
Je m'en souviendrai.
Antonio, I understand the translation in Spanish. I will speak in English.
No.
Okay. Le cinéma de Seix, comme Montaigne, de Seix. I was trying to say that there is, when you speak literature, you speak fiction and non-fiction.
Right.
And then there is a category which is essay.
Yeah.
And I think that when I see this Stuart cinema, it is a very melancholy film for the end of cinema, but it's narrative cinema. And I think this is an open film from a new kind of cinema which would be essayistic.
Yes, but this essay on movies was c'est seulement un essai, hein, ce n'est, il pourrait y en avoir des centaines et des centaines d'autres. Je regrette que ça ne soit pas que le travail dans les universités, où il y a pendant longtemps, au début de la nouvelle vague, on souhaitait que le cinéma soit enseigné dans les universités. Aujourd'hui, je souhaiterais le contraire. Car effectivement, ce cinéma enseigné dans les universités, en France même, il y a un baccalauréat de cinéma. Il est enseigné avec des paroles chaque fois qu'on montre un film et ensuite on fait ce qu'on fait ici, on parle dessus. Alors on parle dessus, et c'est-à-dire on le recouvre. On parle par-dessus, on le recouvre. Alors que moi, j'ai essayé, je n'ai jamais filmé une image là-dedans, c'est ce qu'il y avait de nouveau. Et je pense, d'une manière plus intéressante, par rapport à l'histoire, je me suis souvent disputé avec des historiens où je n'arrive pas à avoir un bon dialogue avec des historiens, car les historiens, ils veulent regarder ce qu'ils appellent les faits, puis ensuite, ils parlent de nouveau dessus, ils écrivent un livre. C'est pas beau, Jonathan. Hein. Ils écrivent un livre. Alors que moi, je dis, non, mais ça dépend. Par exemple, je me suis très souvent aperçu entre un document cinématographique ou de télévision et la photo de ce même document, si on montre la photo, on ne peut pas dire ou on ne pense pas la même chose, suivant ce qu'on a mis avant ou après, que si on a mis... disons l'image réelle. Ce n'est pas du tout pareil. La réflexion n'est pas pareille. La légende n'est pas pareille. La photo amène souvent la nécessité d'une légende. C'est ce que font les journaux. Le film lui-même n'appelle pas du tout cette nécessité de légende. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors l'essai, oui, je trouve la vidéo, l'essai, je sais pas de quoi vous vous plaignez.
Mr. Godard, I wonder if you could talk some about the relationship in your work between your as a critic and as a filmmaker. One last question. I was watching the Olivera film yesterday, which I was quite taken with, and I'm curious if you yourself could imagine yourself at 90 still making films the way Mr. Olivera is.
Yeah. Oui, on est toujours. Je suis resté complètement critique, moi, complètement. Mais quand nous y étions critiques, avec François Truffaut, Rivette et notre aîné, Éric Rohmer, contrairement à d'autres, comme André Bazin ou Georges Sadoul, ou aux États-Unis, quelqu'un comme James Hadji, ou aujourd'hui quelqu'un comme Jonathan Rosenbaum, quand nous y étions critiques, c'était... Nous étions cinéastes, sauf qu'on s'appelait critique de cinéma, et même on n'écrivait même pas encore. Et j'ai consacré une émission, du reste, que vous n'avez pas vue, qui s'appelle Une vague nouvelle à ça, qui disait comment on avait découvert le cinéma, ce qui était très, très unique dans le monde des artistes, puisqu'on a découvert au musée. On l'a découvert au musée, les peintres, quelquefois les littérateurs ont découvert la littérature dans la bibliothèque de leurs parents, pas la bibliothèque municipale. Donc nous, critiques, on l'était, mais c'était notre façon de faire des films. On ne pensait pas du tout à faire des films. Et puis après est venue un peu l'envie, normalement. Mais parler d'un film de Nicolas Ray, pour moi, c'était faire du cinéma. Parler d'un film d'Hitchcock était faire du cinéma. Parler d'un film underground américain, les premiers Shirley Clarke par exemple, ou d'autres films beaucoup plus anciens, c'était faire du cinéma. Il n'y a aucune différence. Et aujourd'hui, faire du cinéma, c'est toujours faire la critique, peut-être en plus large. J'aime l'histoire, j'aime les histoires. Et je pense que le cinéma, il fallait faire un peu, si on pouvait, qu'au moins il y ait un cinéaste, puisque c'était moi. Ben c'est moi, c'est très bien, puisque Nicolas était d'accord de m'aider, ben formidable. C'était que le cinéma était la seule fois où un art peut lui-même, mais lui-même, c'est pas moi qui ai fait tous ces films. Moi je les ai vus, je les ai choisis, je les ai mis de côté, je les ai mis, c'est pas moi. C'est lui-même qui parle, c'est pas moi. Moi je parle à travers lui, moi je sers le plat. Mais il était le seul à pouvoir parler de l'histoire à travers sa propre histoire et donner des sentiments de ce qu'on appelle la grande histoire. Parce que lui-même, si on y met bon ordre, c'est ce que j'essaye de faire, un certain ordre, il parle avec ses propres moyens. Il parle avec ses propres moyens. Vous n'avez jamais vu une histoire de la musique en musique. Entendu, disons, peut-être certains morceaux opéra de Berio, qui a un peu fait ça. Je m'en souviens d'un opéra de Berio à partir d'une symphonie de Mendelssohn. Mais en littérature, non. Vous avez quelqu'un qui parle et puis qui montre des extraits. Il faudrait trop en montrer. Comment enchaîner Montaigne à Faulkner, et puis tout à coup à Pushkin, et puis tout à coup ça, et puis que ça parle de la politique en Amérique, et de la politique des tsars, et la politique de Gorbatchev, puis que ça parle de vous et de moi. Le cinéma, il a fait tout ça, il l'a fait. Sauf que pour donner le sentiment de ce qui s'est passé un peu, pour s'y retrouver, eh ben il faut essayer de retrouver ce qu'on appelle le fil de l'histoire. Hein.
Ils vont...
Où voyez-vous ça?
Dans votre film, j'ai eu l'impression que vous disiez à juste titre qu'il n'y avait pas eu de film résistant, proprement résistant.
Si, j'ai dit qu'il y en avait eu un.
En Italie, oui.
Au sens de cinéma qui résiste, qui a eu des tas de films de résistance. Il y en a même eu un encore récemment en France, Lucie Aubrac. Bon, mais je remarque, moi, qu'en 1942, au moment de l'époque de De Gaulle, quel est un personnage d'un film français qui dit « je lutte » Il n'y en a qu'un, c'est Lina Labourdette dans « Les Dames du Bois de Boulogne ». Et quel rôle jouait-elle dans le film? Le rôle d'une, disons, une demi-mondaine, pour ne pas dire gourgandine ou prostituée, etc. Eh bien, c'est exactement... métaphoriquement, d'un point de vue historique, si on regarde ça, d'un point de vue en quoi l'histoire des Dames du Bois de Boulogne, telles que Bresson et Cocteau l'ont racontée, est par moments, d'une certaine façon, une métaphore aussi de la situation de la France, qui s'est conduite dans le concert européen avant, exactement comme Elina Labourdette, s'était conduit avec les hommes avant que Paul Bernard la rencontre. Et il se trouve quelqu'un qui est Paul Bernard, qui s'en fout, qui lui dit « moi je te reconnais, mais il faut lutter, il ne faut pas partir, il ne faut pas avoir honte, rachète-toi si on peut dire ». Et bien elle dit « je lutte ». Et bien au même moment, c'est ce que De Gaulle demandait aux Français. Voilà, je dis, voilà, s'il y a eu un moment de résistance dans le cinéma français, hein, c'est pas dans la bataille du rail après, c'est pas avant, c'est pas dans les visiteurs du soir, c'est là, voilà. Alors, si vous voulez une anecdote, moi je me souviens, j'étais avec Jacques Rosier, venu présenter son court-métrage Blue Jean en 56, 57, et qu'un jour, on portait nos bobines, et puis on était fatigué de porter cette bobine, on s'est assis, bon c'est un court-métrage, et on a vu arriver un type qui portait trois bobines ou quatre sur le dos, et c'était Jack Nicholson qui apportait le film de Monty Hellman. Bon, voilà, et ben, disons cette époque a disparu. Et si Hollywood, si vous voulez, Hollywood, Saturne aussi aimait bien manger ses enfants, si Hollywood attire les gens, et si les enfants aiment bien être mangés par Saturne, de quoi se plaint-on ? Ça les regarde. Il ne faut pas oublier que l'Amérique est un pays neuf encore de 200 ou 300 ans par rapport à la France qui était une nation depuis 5 ou 6 siècles. Et que l'Amérique n'a pas d'histoire. L'Amérique, son slogan dans le cinéma qui a été longtemps, quand vous demandiez, peu importe, à Cukor, pas Hitchcock, non, mais à d'autres, et surtout à des producteurs, mais un film c'est quoi? Ils vous disent un film c'est d'abord une histoire, encore une histoire, toujours une histoire. Mais ça vient d'enfant d'un pays qui n'a pas d'histoire, et qui doit donc conquérir le monde d'une façon ou d'une autre, pour bien au-delà des cacahuètes, des cigarettes ou des voitures de Formule 1 ou peu importe, ou des compagnies aériennes, doit conquérir pour en faire quelque chose, le remixer, le manger, le digérer, toutes les histoires des autres pays qui ont une longue histoire, puisque les deux histoires, l'histoire des Indiens qu'avait l'Amérique, ils l'ont supprimé. La seule qu'il avait, ils l'ont supprimé. Donc, allez, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Personne, autant que la Nouvelle Vague, n'a aimé un certain cinéma américain et n'a défendu ce cinéma américain à l'époque, à la fois contre les Américains et à la fois contre les Européens. Quand on disait du bien de façon exagérée, je ne sais pas, de Robert Aldrich et en quatrième vitesse, ben, il fallait voir comment on était méprisé. Or ça m'est resté alors totalement, il n'y a pas de différence. Pour moi, je peux dire que je n'ai pas vieilli là-dessus, encore, mais pas en esprit.
Il y a une question, oui.
Je viens d'Argentine, j'ai entendu tout à l'heure que vous avez dit que bon, maintenant vous faites du cinéma pour gagner votre vie, mais je voulais savoir comment vous envisagez ça au début de votre carrière.
Ben pareil, je n'en reviens pas d'avoir pu gagner ma vie et d'avoir une voiture et une salle de bain aujourd'hui avec des films qui ne marchent pas. Je pense que si je suis un petit peu connu, ça doit être que ça intrigue les gens.
Oui, mais c'est...
Comment ça peut se faire?
Ouais, mais c'est...
Même Nicolas, je ne sais pas si...
Est-ce que ça, c'est le but ou...
Car il sait que moi, je ne gagne pas ma vie très mal avec mes films, mais que lui, il gagne un peu d'argent avec les miens.
Mais vous représentez quand même un certain mythe à l'époque.
Mais il est là le mythe. Alors, c'est oui, pas un mythe, c'est un miracle.
Parce que lorsque tout à l'heure vous n'avez pas voulu répondre.
C'est un miracle, c'est faire ce qu'on, non pas ce qu'on veut, mais ce que Sartre a dit toujours, qui m'est resté, l'homme et ce qu'il fait qu'on fait de lui. Je fais les films qu'on me fait faire, mais je les fais à ma façon. S'il faut, enfin, en croyant, s'il faut se révolter, on se révolte. S'il faut s'agenouiller, on s'agenouille, qui est une autre façon de se révolter. Et j'ai toujours privilégié l'œuvre, l'image et l'œuvre projetée. l'œuvre projetée, pas la page écrite, l'œuvre projetée, de manière qu'elle puisse être jugée à droite, à gauche, devant, derrière, projetée. Qu'on puisse dire, si vous me dites, Jean-Luc, vous êtes un connard, un facho, un truc comme ça, ça me fait ni chaud ni froid. Si vous me dites, Jean-Luc, ce travelling n'est pas bon et vous l'avez coupé trop tôt, là ça me touche. Et je peux me demander qui suis-je pour avoir, parce que j'ai le truc en face.
Et c'est la question effectivement à propos du cinéma, le regard fasciste du cinéma, c'est exactement là que je voulais vous poser la question. Voilà, c'était pas politiquement le mot fascisme historique, mais c'est le fait de choisir ce plan plutôt qu'un autre, c'est imposer votre vision comme tous les cinéastes.
Non, c'est le contraire.
Pourquoi
c'est
le contraire?
C'est exact, ça c'est Spielberg, c'est tous, sauf ceux dont nous avons dit du bien.
Mais vous avez fait l'histoire du cinéma, monsieur.
Non, c'est le cinéma qui nous a choisis. C'est très différent. C'est le cinéma. On ne l'a pas choisi, il nous a choisis. Ça a été une révélation. Il n'y a rien de religieux ou de croyance en un dieu, ou etc. C'est comme un moment, la peinture, Picasso disait, je veux peindre jusqu'au moment où la peinture me refusera. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pas Picasso, c'est la peinture à travers Picasso. C'est Picasso aussi au moment où il peint. Mais c'est la peinture, c'est l'autre. Et l'autre, c'est le monde dans le cinéma. Donc on ne fait absolument pas le plan qu'on veut. On fait le plan qu'on peut, le mieux possible, et si possible, le plan qu'on doit. C'est aussi une question, le regard sur le réel est une question de morale. Alors à ce moment-là, on parle aussi de la personne qui porte ce regard.